Chapitre 20. Je sais. Les deux derniers mois de la guerre kalganienne s'écoulèrent rapidement pour Omir. Dans son rôle de médiateur extraordinaire, il était devenu le centre des affaires interstellaires, fonction qu'il ne pouvait s'empêcher de trouver des plus plaisantes. Au cours de cette période, n'eut lieu aucune bataille importante, tout au plus quelques escarmouches dues à des rencontres accidentelles de patrouilles. On forgea donc les termes du traité, avec fort peu de concessions de la part de la Fondation, qui n'en voyait pas la nécessité. Stettin conserva son poste, mais guère autre chose. Sa flotte fut démantelée, ses possessions extérieures rendues à leur autonomie, et un plébiscite fut organisé, qui donnait aux électeurs le choix entre un retour au statut précédent, la pleine indépendance, ou la confédération dans le sein de la Fondation. Le document scellant officiellement la fin de la guerre fut signé sur un astéroïde appartenant au système stellaire de Terminus, dans le site de la plus ancienne base navale de la Fondation. Lev Merus y fit office de mandataire de Kalgan, et Omir y tint le rôle de spectateur intéressé. Pendant toute cette période, il ne vit pas le docteur Darrell, ni aucun des autres. Mais cela n'avait guère d'importance. La nouvelle qu'il avait à leur apprendre attendrait. Comme toujours, cette pensée amena un sourire sur ses lèvres. Le docteur Darrell rentra sur Terminus quelques semaines après le jour de la victoire, JV-62-377, et le même soir, sa maison servit de lieu de réunion aux cinq hommes qui, 10 mois plus tôt, avaient échafaudé leur premier plan. Le dîner s'écoula, puis vint le moment du dessert, et ils semblaient toujours hésiter à aborder le sujet de leurs anciennes préoccupations. Ce fut Joel Turbor, un œil fixé sur les profondeurs pourpres de son verre de vin, qui dit dans un murmure
« Eh bien, Omir, vous voici devenu un homme d'affaires. Vous vous êtes fort bien tiré de votre mission.
Moi ?»
Mun éclata d'un rire sonore et joyeux. Pour une raison inconnue, il n'avait pas bégayé depuis des mois.
« Je n'ai vraiment rien à voir dans tout ça, vous savez. C'est Arcadia qui a tout fait. À propos, Darrell, comment va-t-elle? Je me suis laissé dire qu'elle allait bientôt rentrer de Trentor. »«
On vous aura bien informé, »
répondit Darrell de sa voix tranquille. « Son vaisseau devrait se poser avant la fin de la semaine. » Il considéra ses hôtes avec des yeux voilés, mais il ne recueillit que des exclamations de plaisir confuses et amorphes, rien de plus.
« Alors, c'est vraiment fini, » dit Turbor. « Qui aurait prédit cela au printemps dernier? Mun est allé sur Kalgan et on est revenu. Arcadia a séjourné sur Kalgan et Trentor et va rentrer d'un instant à l'autre. Nous avons eu la guerre et par l'espace. Nous l'avons gagné. On nous dit qu'on peut prévoir les grandes lignes de l'histoire et pourtant, il ne semble pas concevable que toute cette aventure, avec tout ce qu'elle a pu entraîner de confusion pour ceux d'entre nous qui l'ont vécu, aurait pu être prédite dans le détail.
« C'est absurde, » dit Antor d'une voix acide. « Et d'abord, de quoi êtes-vous donc si fier? Vous parlez comme si nous avions vraiment gagné une guerre. » Alors qu'il s'agit d'une escarmouche mesquine qui n'a eu d'autre effet que de détourner notre esprit de notre ennemi véritable.
Suivit un silence gêné, au milieu duquel le léger sourire de Omir Mun jetait seul une note discordante. Antor frappa le bras de son fauteuil d'un poing rageur.
« Parfaitement ! C'est bien à la seconde fondation que je fais allusion. Tout le monde ici se garde bien d'en parler. Et si je ne me trompe, vous faites même tout votre possible pour éviter d'y penser. Est-ce parce que cette fallacieuse atmosphère de victoire qui obnubile ce monde de crétins est à ce point contagieuse que vous vous sentez obligé d'y participer? Eh bien, ne vous gênez pas. Sautez au plafond, faites les pieds au mur. Donnez-vous donc des grandes claques dans le dos, lancez des confettis par la fenêtre pendant que vous y êtes. Surtout ne vous gênez pas. Après, peut-être que nous pourrons reprendre la discussion où nous l'avons laissée il y a 10 mois. Car le problème n'est pas moins présent aujourd'hui que lorsque vous étiez assis autour de cette table en train de jeter des regards apeurés par-dessus vos épaules dans la crainte de je ne sais quel danger. Vous imaginez-vous réellement que les maîtres psychiques de la seconde fondation sont moins redoutables aujourd'hui parce que vous avez administré sa raclée à un pauvre ahuri qui a commis l'imprudence de faire joujou avec sa flotte de guerre ?
Il s'interrompit, haletant, le visage cramoisi.
« Me permettez-vous de placer un mot, Antor ?» demanda Mun d'une voix calme. « Ou préférez-vous continuer à jouer les conspirateurs grandiloquents ?»«
Je vous en prie, Omir, »
répondit Darrell. « Mais pour l'amour de l'espace, abstenons-nous d'abuser d'expressions hyperboliques. Elles sont appropriées en certaines circonstances. Mais pour l'instant, elles m'assomment. »
Omir Mun se renversa dans son fauteuil et prit le temps de remplir son verre à la carafe qui se trouvait à portée de sa main.
« J'ai été envoyé sur Kalgan, dit-il, pour extraire le maximum de renseignements des archives contenues dans le palais du mulet. J'ai consacré plusieurs mois à cette tâche et je n'en tire aucune vanité. Comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est à l'ingénieuse intervention d'Arcadia que je dois d'avoir pu y pénétrer. Le fait n'en demeure pas moins qu'à mes connaissances originelles concernant la vie et l'époque du mulet, qui, vous voudrez bien me l'accorder, n'était pas négligeable, j'ai pu ajouter le fruit d'un long labeur sur une documentation de première main, à laquelle nul autre n'a eu accès. Je me trouve en conséquence, mieux placé que quiconque pour estimer à sa juste valeur le danger que présente la seconde fondation, et infiniment plus documenté sur la question que peut l'être notre jeune et irascible ami ici présent.
« Eh bien, » grinça Antor, « donnez-nous une estimation de ce danger. »
« C'est simple. Il est... nul. »
Un court silence, puis Helvet Semik demanda avec une expression de surprise incrédule.
« Comment cela ? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de danger ?
Mais oui, mes amis, la seconde fondation n'existe pas. »
Antor referma lentement les paupières et demeura assis, le visage pâle et inexpressif. Mun poursuivit, conscient de l'attention générale et la savourant. Et qui plus est, elle n'a jamais existé.
Sur quoi basez-vous cette conclusion surprenante ?
S'enquit Darrell.
Je ne nie pas qu'elle soit surprenante, répondit Mun. Vous connaissez tous l'histoire de la quête du mulet qui s'était mis en tête de découvrir la seconde fondation. Mais... que savez-vous de l'ardeur, de l'obstination qu'il a déployée au cours de ses recherches ? Il disposait de ressources gigantesques qu'il a utilisées avec la plus extrême libéralité. C'était l'homme d'un seul objectif. Et pourtant, il a échoué. Il n'a jamais trouvé la seconde fondation.
« Pouvait difficilement s'attendre à ce que quelqu'un la trouve. »
fit remarquer Turbor, visiblement agité.
« Elle possédait les moyens de se protéger contre les esprits trop curieux. »
« Même si l'esprit en question est celui d'un mutant ? D'un prodige mental, comme le mulet ? Je ne pense pas. Mais vous n'attendez pas de moi, je l'espère, que je vous donne en 5 minutes la substance de 50 volumes. Tous ces travaux, selon les termes du traité de paix, feront bientôt partie du musée historique de Seldon, et vous aurez tout le loisir de procéder à une analyse aussi approfondie que celle à laquelle je me suis livré. Vous y trouverez la conclusion exprimée sans embâge. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu de seconde fondation. »
Semik s'interposa.
« Dans ce cas, dites-nous ce qui a donné un coup d'arrêt aux activités expansionnistes du mulet. »
Par la galaxie, qu'est-ce que vous voulez que ce soit ?
Il est mort. Voilà ce qu'il a arrêté. C'est d'ailleurs ce qui nous attend tous autant que nous sommes.
Une légende particulièrement tenace, la plus répandue en tout cas, veut que le mulet ait été arrêté dans sa carrière foudroyante de conquérant par de mystérieuses entités douées de pouvoirs supérieurs aux siens. C'est toujours ce qui arrive lorsqu'on ne regarde pas les choses sous le bon angle. Nul dans la galaxie ne peut certainement ignorer que le mulet était un monstre autant sur le plan physique que mental. Il est mort vers la trentaine parce que son corps mal conformé ne pouvait plus assurer le fonctionnement d'une machinerie prématurément usée. Plusieurs années avant sa mort, il était déjà impotent. Au mieux de sa santé, il ne pouvait rivaliser avec le plus faible des hommes. C'est entendu, il a conquis la galaxie et, conformément aux lois de la nature, il s'est éteint. C'est merveille qu'il ait résisté tant de temps et accompli tant de choses. Mes amis, la conclusion est « on ne peut plus clair ». Il vous suffira de prendre patience, essayez d'examiner les faits sous un angle nouveau.
Soit, essayons, Mun,
dit Darrell qui semblait déjà perdu dans ses pensées.
Ce sera une tentative intéressante à défaut d'autre chose. Au pire, cela nous dégrippera un peu les méninges. Ces hommes dont l'esprit a été manipulé et dont Antor nous a apporté les schémas physiques il y aura bientôt un an, qu'en faites-vous? Allez-y, montrez-les-nous donc sous un angle nouveau.
Rien de plus facile? À combien de temps remonte l'encéphalographie analytique en tant que science constituée? En d'autres termes, à quel stade se trouve l'étude des cheminements neuroniques?
D'accord,
répondit Darrell. Nous n'en sommes encore qu'au premier balbutiement.
Très bien. Quelle certitude possédons-nous quant à l'interprétation de ce que j'ai entendu, Antor et vous-même, appeler le palier des manipulés? Vous avez échafaudé des hypothèses, mais que possédez-vous en fait de certitude? Ces hypothèses constituent-elles une base suffisamment ferme pour qu'on puisse en déduire l'existence d'une puissante force dont tous les autres indices démentent l'existence? Il est toujours facile d'expliquer ce que l'on ne connaît pas en faisant intervenir une volonté surhumaine autant qu'arbitraire. C'est très humain, finalement. Tout au long de l'histoire de la galaxie, on a pu observer des cas où des systèmes planétaires isolés sont retournés à la barbarie. Et qu'avons-nous constaté alors? Immanquablement, ces primitifs attribuent les forces de la nature qui leur demeurent incompréhensibles, tempêtes, épidémies, sécheresses, à des êtres animés plus puissants que les hommes et dotés d'un pouvoir discrétionnaire. On nomme cette tendance l'anthropomorphisme, je crois. De ce point de vue, nous ne nous conduisons pas mieux que ces sauvages. Pis encore, nous nous complaisons dans cet état. Connaissant peu de choses aux sciences psychiques, dès que quelque chose nous échappe, nous accusons les surhommes. Ceux de la seconde fondation, en l'occurrence, en nous fondant sur les bribes d'informations que nous a laissées Seldon.
Ah, tout de même, vous vous souvenez de Seldon?
Interrompit Antor.
Je pensais que vous l'aviez oublié.
Seldon a dit qu'il existait une seconde fondation. Il l'a dit.
Et ça, sous quel angle est-ce que vous le voyez?
Prétendriez-vous connaître toutes les intentions de Seldon? Connaissez-vous tous les facteurs que la nécessité l'a contraint d'introduire dans ses calculs? La seconde fondation a peut-être joué le rôle d'un épouvantail nécessaire en vue d'un objectif hautement spécifique. Comment avons-nous battu Kalgan, par exemple? Que disiez-vous dans votre dernière série d'articles, Turbor?
Turbor remua son corps massif.
Oui, je vois à quoi vous faites allusion. Je me trouvais sur Kalgan vers la fin des hostilités, Darrell, et il était facile de constater que le moral de la planète était extrêmement bas. J'ai feuilleté leurs archives de presse et j'ai vu qu'ils s'attendaient à être battus. En fait, ils ont été complètement paralysé par la croyance que la seconde fondation interviendrait en faveur de la première, bien entendu.
« Tout à fait exact, » dit Mun. « J'y suis demeuré pendant toute la durée de la guerre. J'ai déclaré à Stettin qu'il n'existait pas de seconde fondation, et il m'a cru. Lui, il se sentait en sécurité. mais ils ne possédaient aucun moyen d'obliger les gens à renoncer subitement à une croyance à laquelle ils étaient demeurés attachés pendant toute leur existence, si bien que ce mythe a bien rempli son office dans la partie d'échec cosmique de Seldon.
Antor ouvrit soudainement les yeux et fixa sur le visage de Mun un regard sardonique.
« J'affirme que vous mentez !»
Omir devint livide.
« Je ne vois pas la nécessité de supporter, et encore moins de répondre à une accusation de cette nature.
Je le dis sans la moindre intention de vous offenser personnellement. Vous ne pouvez faire autrement que de mentir, puisque vous ne vous en rendez même pas compte. Mais vous n'en mentez pas moins !»
Sémic posa sa main ridée sur la manche du jeune homme.
« Du calme, jeune homme. »
Antor le repoussa sans aménité.
« Vous mettez ma patience à rude épreuve, tout ce temps que vous êtes. Je n'ai pas vu cet homme plus d'une douzaine de fois dans ma vie, et pourtant je le trouve incroyablement changé. Vous le connaissez depuis des années, et néanmoins vous n'avez rien remarqué. Il y a de quoi vous rendre fou. »
Vous prétendez que cet homme que vous écoutez depuis tout à l'heure s'appelle Omir Mun ? Moi, ce n'est pas le Omir Mun que j'ai connu.
Mouvement divers, tumulte par-dessus lequel on entendit la voix de Mun qui criait
« Vous me traitez d'imposteur ? Peut-être pas dans le sens ordinaire !»
hurla Antor au-dessus du vacarme.
« Mais un imposteur néanmoins ! Silence, taisez-vous ! J'exige qu'on m'écoute !»
Il les fusillait du regard. Et il finit par obtenir le silence.
Est-ce que nous nous rappelons bien le même Omir Mun ? Moi, j'ai le souvenir d'un bibliothécaire timide, qui avait toujours l'air gêné de devoir prendre la parole en public, un homme nerveux, tendu, qui bégayait et n'arrivait jamais à finir ses phrases. Dites-moi franchement, vous trouvez que cet homme-là lui ressemble ? Lui, il parle sans arrêt, il est plein d'assurance, il a des théories à revendre, et par l'espace, il ne bégait pas. Vous pensez que c'est vraiment la même personne ?
Mun lui-même parut confus, et Péléas Antor poursuivit.
« Eh bien, allons-nous le mettre à l'épreuve ?»«
Comment ?»
s'enquit Darrel.
« C'est vous qui me demandez comment ? La méthode est évidente. Vous possédez ces enregistrements encéphalographiques d'il y a 10 mois, n'est-ce pas ? Soumettez-le à un nouvel examen, et nous comparerons. »
Il braqua son index sur le bibliothécaire qui s'était rembruni. Et dit avec violence.
Qu'il ose seulement refuser. Je n'y vois pas d'inconvénient,
répondit Mun sur un ton de défi.
Je suis l'homme que j'ai toujours été.
Comment pourriez-vous le savoir ? Demanda Antor avec dédain.
J'irai plus loin. Je ne me fie à aucun membre de l'assistance. Je demande que chacun se soumette à une nouvelle analyse.
Une guerre vient de finir. Mun a séjourné sur Kalgan. Turbor a parcouru toutes les zones de guerre à bord d'un vaisseau. Darrel et Sémic ont été absents également. Où ont-ils été ?
Je n'en ai pas la moindre idée. Et pour jouer le jeu, je me soumettrai également à l'examen.
Sommes-nous d'accord ?
Ou devrons-nous nous séparer et poursuivre notre route chacun de notre côté ?
Turbor haussa les épaules.
Aucune objection.
Moi non plus. Je l'ai déjà dit, rappela Mun.
Sans dire un mot, Sémic leva la main en signe d'assentiment. Et Antor attendit la réaction de Darrel. Finalement, celui-ci hocha la tête.
Examinez-moi le premier,
dit Antor.